il faut pas avoir peur. Il y a plusieurs théories là, plusieurs écoles, hein, entre le, puis voilà, il y a eu Tchernobyl avant. Alors il y a les gens qui disent, ben, pour ne pas avoir peur, il faut savoir, il faut connaître. On va vulgariser, autrement dit, on va leur expliquer bien simplement comment ça se passe, qu'est-ce que c'est que la radioactivité, on va leur expliquer comment utiliser les outils. Et quand on sait, on n'a pas peur. Pour d'autres personnes, c'est le contraire, c'est-à-dire... En fait, vaut mieux pas trop savoir. Hein. Si on peut éviter d'en parler un peu, c'est mieux. Parce que à force d'en parler comme ça, tout ça, on se fait des idées. Et donc, il vaut mieux ne pas savoir. Pas trop savoir. Voilà. Donc, il y a un peu toutes les écoles. Et les gens à Towa se disent victimes de ces rumeurs. C'est effectivement la radiophobie. Très vite, on dit que c'est les femmes qui ont un cerveau radiosensible. Et donc, il faut faire taire un peu les femmes. Il faut les rassurer, il faut soigner leur psychologie. Hein. Les rumeurs néfastes, c'est ça. On a accusé les femmes de propager, d'être le vecteur d'inquiétude, de peur, qui fait que dans des endroits comme Towa, les gens ne peuvent plus vendre leur riz, leurs légumes, etc. Et donc, d'un certain point de vue, en fait, les gens avec lesquels j'ai passé du temps à Towa sont les méchants, parce qu'eux continuent à vendre le riz. Mais il faut comprendre le tableau général qui est très compliqué. C'est-à-dire les gens sont montés les uns contre les autres. Et monsieur et madame Ono, comme tous les gens à Towa, vont, à leur échelle locale, faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer, effectivement, de rassurer la population. Ils n'ont pas essayé de vendre à tout prix, à n'importe quel prix, en n'en ayant rien à faire des conséquences sanitaires, etc. Ils ont enquêté pendant des années et c'est des arbitrages à l'échelle d'une communauté, à l'échelle d'un pays, etc. Mais il faut imaginer le climat général, en fait, voilà, dans lequel toutes ces enquêtes-là sur c'est quoi le rapport du riz avec la terre, avec le sol, avec le vent, avec le soleil, tout ça, faut imaginer que le climat général, c'est ça, voilà. C'est de la peur, et puis que c'est pas non plus, les catégories sont pas fixes. Et là, on a travaillé aussi avec un collectif, donc on est allé à plusieurs dans la région de Towa et plus largement dans le département de Fukushima. Et là, c'est très saisissant, parce que ce que fait comprendre cette expérience qui consiste à y aller à plusieurs à cet endroit-là, c'est que, en fait, moi, quand j'y suis allée toute seule, je me suis dit, moi, j'y vais 3 semaines, un mois, les gens vivent là, je vais faire comme les gens, et je vais manger comme les gens, je vais boire comme les gens, et je vais pas... Quand je rentrais, on me disait, mais t'as pas peur de la radioactivité, je disais, mais je fais comme les gens, enfin, eux, ils restent vivre à l'année, donc moi, je m'étais fait mon petit calcul, en fait, en me disant, moi, je me mets pas en risque, j'avais pas du tout l'impression de me mettre en risque. Et le fait d'y aller à plusieurs, simplement à 7, 8, voilà. Ce que ça fait, c'est que on arrive avec chacun à des moments de notre vie différentes, des sensibilités, des connaissances différentes, enfin tout ça joue et c'est jamais stabilisé. C'est-à-dire qu'il y a un moment, toujours dans le groupe, quelqu'un qui dit « Ah non, en fait, là, je peux pas ». Et sans avoir jamais pu anticiper ce moment-là, voilà. Et donc on ne sait pas le moment où pour nous ça va être juste, là c'est pas possible, là je le sens pas. Et c'est très difficile d'objectiver ça. Et donc on peut imaginer sur cette expérience-là, on peut imaginer comment pour les gens ça s'est produit de la même façon. C'est pas des gens qui ont des positions arrêtées. Ils se sont posés des tas de questions. Ils font des choses un peu au jour le jour parce qu'on est quand même dans, il y a eu une catastrophe. Enfin il y a eu un truc qui a bouleversé le pays aussi. Enfin, il y a tout ce contexte-là. Et puis, d'un coup, on peut imaginer qu'ils se sont dit « Non, mais ça, t'es sûr que tu le donnes à notre fils, là ?» Voilà. Et que les interrogations ont été incessantes pendant des années, des années, des années, des années. Et donc, c'est pas stabilisé à l'intérieur même d'une famille ou à l'intérieur même, encore moins, à l'échelle de Towa, et même à l'intérieur d'un individu. À l'échelle d'un individu, nous, on l'a vraiment éprouvé. On se dit, oh non, on est clair, non, mais on sait pourquoi on y va, on est clair, on a lu, on a un machin, on est prêt. Enfin, je veux dire. Et une fois, on y est allé, deux fois, on y est allé, trois fois, on y est allé, chaque fois, on s'est retrouvé à des moments très différents, suivant les individus, bloqué sur un truc qu'on n'avait pas pu anticiper.
Trop d'incertitudes, donc trop d'informations discordantes, alors chaque personne fait comme elle veut, comme elle peut, et comme elle peut surtout à cet instant T, en fonction de plein de choses qui la traversent. Est-ce que moi, j'accepterais de boire le thé avec des habitants dans cette zone léopard ? Même 10 ou 15 ans après l'accident, je ne sais pas, je ne peux pas savoir, je n'y suis pas. La zone grise porte bien son nom, rien n'y est tout blanc ou tout noir.
Il y a les zones de contamination très élevées, c'est ce qu'on appellerait la zone interdite. Donc, grosso modo, voilà, il y a des endroits où les gens ne vivent plus, ou ne pouvaient plus vivre pendant des années, avec des taux de contamination élevés. Mais à Towa, les gens n'ont pas été déplacés, et on est dans ce cadre-là d'indécidabilité. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle des faibles doses. Et moi, c'est vraiment l'apprentissage que j'ai fait auprès de ces gens-là. C'est une des choses que je décris dans le livre. C'est en fait des faibles doses de radioactivité. C'est pas juste moins de radioactivité. C'est juste un régime d'existence très particulier. Voilà. Parce que faible dose, ça veut dire que c'est les choses vont se comporter, les entités radio, les radioéléments vont faire manquer d'assurance tout le temps. On va jamais trop savoir. On sait que c'est pas, on sait que c'est dangereux, mais c'est la mesure est située à un tel endroit d'indécidabilité qu'on ne sait pas si c'est... Voilà. Et là, dans les théories, c'est vraiment vicieux, en fait, cette histoire de radioactivité, parce que dans les théories expertes sur la radioactivité, pareil, il y a toute une palette, mais grosso modo, il y a une théorie qui veut que bah, plus il y a de radioactivité, plus c'est dangereux. Et il y a une théorie qui dit... Bah, même un tout petit peu, en fait, ça dépend de si ça te touche, toi, à un moment donné de ta vie, tel organe, ça va avoir un effet, peut-être sur moi, ça n'en aura pas, ça dépend de nos histoires, ça dépend de tout un tas de choses. Donc c'est des rencontres, mais du coup, un tout petit peu de radioactivité peut, voilà, peut avoir un effet, donc c'est pas une question de quantité, autrement dit.
Personne n'est atteint par la radioactivité de la même façon. Si vous êtes malade, si vous fumez, ce que vous mangez, votre génétique, votre vie, de tout cela va dépendre comment la radioactivité pourrait vous toucher, toucher un organe de votre corps plutôt qu'un autre, et quelles conséquences cela aura sur vous. Alors comment faire, puisque aucune règle universelle ne peut être définie ?
Bah, c'est-à-dire qu'on est quand même obligé de se donner des règles. Il y a des plans de gestion, il y a des, voilà, c'est ça qui va avec les infrastructures nucléaires, c'est des plans de gestion, des plans d'évacuation, c'est des zonages, des machins comme ça, des seuils, il faut dire, voilà. C'est des politiques sanitaires. Et après, la physique, en fait, c'est un collègue du collectif qui est géophysicien qui disait c'est stochastique, donc c'est chaotique. C'est-à-dire... voilà, effectivement, si on n'est pas exposé, il y a moins de chances que on tombe malade, qu'on ait des conséquences sanitaires, évidemment. Mais à petite dose, par contre, les effets, on n'est plus très sûr des mécanismes qui peuvent s'enclencher à cette échelle-là. Au point qu'il y a même une théorie qui s'appelle la théorie de l'Hormèse, qui dit qu'au contraire, et c'est un peu le principe avec la radiologie, hein, qu'au contraire, de très faibles doses de radioactivité vont être bénéfiques pour la santé. C'est impressionnant, moi ça m'a impressionné aussi de me rendre compte que le degré d'incertitude qui reste et des gens qui ne sont pas d'accord, c'est quand même très troublant, quoi. Parce que c'est à la fois des théories scientifiques, mais par exemple, nous, on y est confronté, là, par exemple, avec ce collectif, là, une des premières fois, où c'est comme une trappe qui s'ouvre sous les pieds. On va dans la région de Fukushima, on prend un hôtel. Dans les hôtels japonais, souvent, il y a des bains publics, enfin, bain pour les hommes, bain pour les femmes, très chaud. Et on arrive dans le bain pour les femmes et on voit que c'est un bain au radon. Donc, le radon, c'est le gaz du radium. Donc, il y a une pierre. Donc, qui est radioactive dans le bain. Et ça, c'est... Et il y a la liste de tout ce que ça... tous les effets bénéfiques de cette eau-là, très légèrement radioactive, pour la santé. Et du coup, là, c'est ce sentiment de dire, mais enfin, je ne comprends pas, on est à Fukushima, on est quelques années après la catastrophe, les gens savent comment cette chose-là est possible. On a l'impression d'un retour sévère, direct, au 19e siècle, dans cet autre moment de la radioactivité, où on associait à la radioactivité des vertus quasi magiques, en fait. Voilà. Et ça coexiste. Voilà. Et ça renvoie au fait que dans le champ scientifique, les choses ne sont pas réglées. Et probablement qu'on est pile à un endroit où ça ne pourra pas être réglé. Parmi les derniers développements scientifiques, là, il y a une autre théorie où, suivant cette théorie, c'est au contraire de très faibles doses de radioactivité, un peu en continu. Ce qui est le cas, par exemple, dans la Hague. Dans des endroits où il n'y a pas eu de catastrophe, encore. Mais il y a des tas de petits incidents dans l'échelle des infrastructures nucléaires, enfin des opérateurs nucléaires. Et il y a eu des petites fuites quand même dans les années 70, 80. Voilà. Et donc les gens savent qu'il y a un peu. On en retrouve, on sait que telle rivière, à tel endroit, enfin voilà, qu'il y a des lâchers qui n'y auraient pas dû être, enfin voilà. Et donc là, suivant cette dernière théorie, quand tu as un tout petit peu, mais pendant très longtemps comme ça, c'est-à-dire à l'échelle d'une vie, en fait, c'est ce que ton corps prend, c'est tellement à bas bruit, tellement bas, en fait, que le mécanisme dont on est équipé par ailleurs, qui est un mécanisme de réparation des cellules qui peuvent être atteintes dans des tas de circonstances, ce mécanisme-là ne se déclenche pas. Voilà. Donc, ça, c'est pas très optimiste que je dis là, mais... Voilà, c'était pour faire un peu le panorama général de toutes les théories qui sont encore au travail parmi les scientifiques. Tell us about it, Janet. I was feeling done in, couldn't win. I'd only ever kissed before. You mean you've only ever kissed? There's no use getting into heavy petting. It only leads to trouble and seat wetting. Now all I wanna know is how to go.
Petite blanc dans du poil sous les bras.
On ne sait pas grand-chose. On voit bien les similitudes entre Hiroshima, Nagasaki, Tchernobyl, Fukushima et tant d'autres événements catastrophiques liés au nucléaire. Mais on voit aussi toutes les différences dans la propagation, les concentrations, les dommages collatéraux. Finalement, les explosions se produisent. Et on survit. Alors, au lieu de faire croire à des accidents improbables qui ne devraient jamais arriver, eh bien, on fait accepter aux populations que désormais c'est une possibilité, comme une autre, d'avoir un accident nucléaire ou de recevoir une bombe sur la tête. On va juste discuter de ce qu'on fait quand le pire arrive, puisqu'on sait désormais que le pire arrive de temps à autre. Alors on va tergiverser pour savoir où est-ce qu'on mettra la frontière, où est-ce qu'on dira ici, la radioactivité s'est arrêtée, vous vous inquiétez pas, là par contre attention. La nouvelle doctrine, c'est le pire n'est plus si pire finalement.
C'est vraiment pour moi ce que j'ai découvert en suivant les gens pendant toutes ces années, quoi. C'est de réaliser que très probablement à Towa, cette question de la contamination n'allait pas être une question de vie ou de mort. Les gens ne sont pas en train de se choper des cancers de la thyroïde. C'est pas si colossal. Il y a une augmentation, mais c'est pas si colossal. Ce qui a été mis en péril, c'est la relation qu'on entretient avec toutes ces choses. Donc on a parlé de la mesure, les gens font ça pendant des années, et une année je reviens et je me rends compte qu'en fait les gens sont moins préoccupés, sont toujours préoccupés de mesure, mais sont plus, se conduisent plus comme des naturalistes. Ou des éthologues. Ils regardent le comportement, c'est-à-dire ils enquêtent, ils ont commencé à essayer de comprendre comment se comporte la radioactivité, le césium. Voilà. Et donc c'est plus comme on a affaire à un animal qu'on ne voit pas, on ne voit que les traces, et il faut comprendre comment la radioactivité, elle se déplace, à quoi elle s'accroche, comment on peut la fixer, comment elle stagne à certains endroits, comment elle va être remise en mouvement par les intempéries, un typhon, comment elle va être saisie par des environnements chaque fois spécifiques. Donc la radioactivité, telle dose de radioactivité dans une rizière, ça ne fait pas la même chose que la même dose de radioactivité dans une forêt ou dans une rivière. Les gens comprennent qu'il va falloir tout distinguer, tout discriminer et faire une enquête dans la rizière, dans la rivière, dans la forêt. Et là, je te parle d'environnement, et dans la forêt, il va falloir voir la radioactivité avec tel type d'arbre, tel sol, tel type d'écorce, tel type de croissance d'arbres. Et dans la rizière, il va falloir voir le rapport de la radioactivité avec tel type de riz, avec la racine du riz, du plant de riz, avec la feuille du plant de riz, avec la tige du plant de riz. À chaque fois, c'est différent. Et donc, il n'y a pas un péril sanitaire imminent. Et en même temps, les gens, ils ont été mis dans une situation où d'un coup, la continuité entre toutes ces choses, c'est-à-dire le fait de, on ne passe pas notre temps à s'interroger sur le lien entre chacune des choses qu'on côtoie, qu'on touche, etc. Et là, d'un coup, les gens doivent... Plus rien ne devient innocent, quoi. Enfin, il n'y a plus ce sentiment de continuité de l'existant. De l'existant, et donc de l'existence, quoi. Tout ça est mis en péril, vraiment.
Les habitants de ces zones grises deviennent experts de leur expérience de vie singulière, d'une vie avec la radioactivité. Ils étudient ce qu'il se passe, ils deviennent chercheurs, ils mettent ainsi en lumière la connexion du vivant, les interconnexions de tous les vivants. Suivre le chemin de la radioactivité, c'est aller du ciel à la terre, des racines aux bactéries, de l'eau à la pierre, de notre peau à notre intestin, tout y passe, tout est poreux à la radioactivité. Comme si cet état de fait permettait aussi une opportunité nouvelle de voir ces connexions, de mieux les comprendre, de repenser notre lien aux autres et au territoire. Au final, on pourrait presque se dire la vie perdure, ça va quoi.
C'est vrai que ce dont tu parles, c'est quelque chose avec laquelle je me suis moi-même battue beaucoup dans le livre. Et parce que je ne voulais pas du tout banaliser, donner l'idée que ce qui se passait à Towa, c'était de l'ordre du banal, que c'était de l'ordre de la réparation, puis ça va, quoi. Enfin, on prend un peu sur nous, hop, hop, hop. Et puis, mais il fallait bien que j'entende aussi M. Ono qui disait, toutes ces années, c'était quand même passionnant. J'ai rencontré plein de gens, des tas de scientifiques qui sont venus chez moi. Ça serait jamais passé s'il n'y avait pas eu la catastrophe. Puis on s'est mis au travail et puis on s'est soudés. Toute la communauté s'est vraiment soudée. C'est comme un électrochoc. Et on a fait plein de trucs ensemble. Ça a relancé la communauté, le faire communautaire. Et il y a des belles choses qui naissent de ça. Voilà. Et je me disais, comment je vais faire pour raconter ça sans qu'on puisse imaginer que ça va, quoi, une catastrophe nucléaire, franchement, ça va, quoi. Voilà. Ça va être un peu dur au début, mais ça va aller. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur Tchernobyl, sur Fukushima, sur d'autres catastrophes nucléaire et sur d'autres catastrophes de pollution aussi d'ailleurs. Et parfois, il y a des manières de dramatiser qui ne me semblaient pas tout à fait justes. Sur les catastrophes nucléaires en particulier, on a un imaginaire qui est super nourri déjà. Il y a des tas d'images qu'on a en tête. On dit Tchernobyl, on dit zone interdite. Voilà, on a tout de suite un imaginaire qui se met en action, quoi. Voilà. Et donc, il y avait l'idée non plus de pas utiliser de ce registre-là. C'est pas qu'il est faux, c'est qu'il dit pas tout. Et donc, l'idée là dans le livre, c'était aussi de mettre de l'attention à d'autres endroits, comme tous ces moments d'enquête là à tout petite échelle sur cette histoire d'écorce d'arbre où on découvre qu'en fait les chênes c'est moins bien que les bouleaux parce que l'écorce elle est toute crénelée et que ça devient des réservoirs à radioactivité et qu'il va falloir repenser la totalité de la gestion forestière en fonction de cette nouvelle, c'est juste en fonction du type de la peau des arbres, l'écorce des arbres quoi. Voilà. Et donc, moi j'ai essayé de faire porter l'attention à ces endroits-là pour pas qu'on imagine que c'est trop cool.
Ce que raconte Sophie Houdard dans ce territoire qui, comme une pulsation, c'est l'intelligence et la variété du vivant. Mais c'est vrai qu'on est parfois dubitatif. On se demande comment est-ce possible, après Hiroshima et Nagasaki, que le pays se soit lancé dans le nucléaire, quand bien même il est dit nucléaire civil. Bon, ça reste du nucléaire. Mais on oublie, on passe à autre chose, comme dans la vie en général.
Ce qui m'a intéressé, parce que je m'intéresse beaucoup aussi à l'anthropologie des sciences et à l'histoire des sciences, enfin, comment les savoirs s'établissent, se stabilisent, se fabriquent, enfin, évoluent, etc. Et là, il y a deux choses qui m'ont vraiment intéressée et pour compliquer, l'idée c'est toujours de compliquer l'affaire. Et donc là, ça amène à faire une enquête aussi de type plus historique, à la fois sur qu'est-ce qui s'est passé après Hiroshima et Nagasaki, comment en fait des politiques, aussi des politiques culturelles très fortes, ont tout fait, et pas seulement japonaises, et bien aidées par les Américains, pour dire nucléaire civil et nucléaire militaire, ça n'a aucun rapport. Voilà. Et donc, toutes les années 50, au moins, sont dévolues à ça. Il y a des expositions, il y a des films, il y a Astro Boy, enfin, il y a tout ça, qui fait que c'est des campagnes vraiment de publicité, d'information, tout ça. Et donc, qui fait qu'on construit dans le temps la possibilité pour un pays, des gens, des personnes, de croire en l'énergie de l'avenir, l'énergie nucléaire, c'est l'énergie de l'avenir, et faire le deuil de cette histoire. Le nucléaire militaire, c'est lié à la défaite, c'est lié aussi, il faut se repentir, hein, c'est vraiment un moment très dur de l'histoire japonaise, et tout a été fait pour déconnecter ces deux histoires. Voilà. Par ailleurs, un autre élément historique qui fait que ça complique l'histoire, ça m'a passionné aussi, c'est l'histoire de la géologie et l'histoire de la sismologie, et de réaliser qu'en fait, au moment où les projets de centrales nucléaires se développent au Japon, eh bien, la théorie des plaques tectoniques n'est pas encore officialisée au Japon. C'est très tard. Alors même en Europe, même aux États-Unis, hein, c'est les années 60, premier article, c'est les années 60. Et au Japon, il y a des tas de controverses, qui sont des controverses scientifiques, qui n'invalident pas cette théorie-là avant au moins 20 ans plus tard. Et donc, c'est pas du tout pour excuser TEPCO ou excuser le fait qu'il y a eu des bourdes énormes parce qu'il y avait un paléo-sismologue, quelqu'un qui avait travaillé sur l'histoire de la sismologie, des tremblements de terre très, 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 très anciens, qui était allé voir TEPCO en disant « il faut relever les digues, on a trace maintenant, on sait, etc. » Et voilà, ça s'est pas fait, ça a été négligé. Il y a comme aujourd'hui encore, il y a des cas de négligence, alors que maintenant, quand même, on sait que... Donc, ça n'excuse rien. Mais ça complique l'histoire. C'est-à-dire, quand même, voilà, il faut considérer que... Enfin, moi, j'en revenais pas que ce soit si tardif, cette histoire de plaque tectonique. Et avec tout ça, va l'idée que les sciences de la Terre sont très liées à l'histoire nucléaire, nucléaire militaire, voilà. Le développement des instruments en physique de la Terre et notamment en sismologie, ça prend un coup de boost énorme pendant la guerre froide parce qu'il s'agit de pouvoir distinguer un essai nucléaire d'un tremblement de terre. Et donc c'est vraiment le nucléaire qui investit massivement dans l'histoire de la sismologie, par exemple, dans les sciences de la terre. Enfin bon, tout ça, c'est encore une fois, c'est pas pour chercher des excuses, c'est pas pour amoindrir ce qui s'est passé, c'est au contraire pour faire comprendre que ça a une histoire beaucoup plus longue et des ramifications beaucoup plus profondes, en fait. C'est lié à l'histoire de notre modernité, c'est lié à l'histoire de notre rapport à l'environnement, à la Terre, à notre place sur la Terre. Enfin, voilà, c'est une histoire très, très lourde, quoi. Une des choses qui, pour moi, a été une leçon forte, c'est sur justement ce qui peut ou non s'apprendre d'une catastrophe. Donc, le livre finit un petit peu là-dessus, sur Monsieur Ono qui me dit s'il arrive une catastrophe nucléaire chez vous, je pourrais vous donner quelques tips, quelques conseils. Et en même temps, ce qui fait comprendre, c'est qu'il faudra qu'on refasse tout le chemin, quoi. Que ça ne va pas être clé en main. Et que les solutions qu'ils auront, eux, essayé laborieusement de trouver, de mettre en place, de stabiliser, ben, il y a de grandes chances qu'elles ne marchent pas chez nous et qu'il faudra qu'on arrive à nos propres conclusions en ayant refait tout le travail d'enquête qu'eux-mêmes ont accompli. Et pour moi, c'est en fait un des points d'aboutissement de cette enquête-là, mais c'est le point de départ aussi de ce sur quoi je suis en train de travailler maintenant et qui m'amène d'une certaine façon dans la Hague, en Normandie. Je ne suis pas en train de comparer Fukushima et la Hague, mais dans cette histoire très dense dont on a parlé, très longue aussi, le fait de pouvoir concevoir que des choses sont comparables, qu'on va pouvoir gérer, avoir des modes de gestion, un management des catastrophes nucléaires, avec une capitalisation d'une catastrophe qui va servir à une autre, etc. Ça, c'est quand même le mode de gestion qui est à l'œuvre et qu'on voit. Voilà, en France, on a un plan de gestion, un plan d'évacuation qui a pris en compte, évidemment, la catastrophe de Fukushima, qui s'est servi de Fukushima comme d'un laboratoire et qui paramètre un certain nombre de décisions au regard de ce qui s'est passé. Voilà. De comprendre cette chose-là, qu'il y avait d'une part, du point de vue à hauteur des gouvernements, des choses qui se préparent, des scénarios qui sont établis et pour lesquels c'est bien utile d'avoir des catastrophes. Et puis la catastrophe telle qu'elle est vécue, voilà, dans l'expérience des personnes, dans l'existence des personnes, et avec toutes ces choses qui sont irréductibles, pas reproduisibles, il n'y a pas de raccourci possible. Voilà. Et donc pour moi, ça ouvre des tas de questions sur comment est-ce qu'on a pu imaginer ça. On n'est pas du tout sorti de ces affaires-là, vu les politiques qui sont menées actuellement. Alors moi, je trouve qu'il y a quelque chose à avoir en tête, quoi, sur ces questions-là. Quoi.
Oh non, crotte, zut, le temps a filé et moi j'avais encore envie de vous dire plein de choses. Bon, ben je vous dis juste que le Japon est entré dans l'ère de la belle harmonie. C'est tout ce que je souhaite aux Japonais et à nous aussi d'ailleurs, parce qu'en ce moment, l'harmonie sur Terre, c'est pas flagrant avec ou sans nucléaire. Alors profitez, respirez, abreuvez-vous d'air pur tant qu'il y en a. Moi je vous quitte avec les poils de Sophie Houdard, mais on se retrouve très bientôt sur la FM et puis d'ici là, en podcast sur le net.
Mes poils, je fais ce que je peux pour les laisser libres. Ah, si je peux raconter l'histoire de mes poils, après les avoir laissés très longtemps pousser sur mes jambes, ce que je faisais pas quand j'étais plus jeune et que j'ai commencé à faire il y a plusieurs années, et le moment où je me suis rendu compte de ce que devaient éprouver les hommes avec leurs poils sur les jambes, c'est le vent qui passe sur les poils et qu'on n'éprouve pas du tout quand on est épilé. Et ça, vraiment, j'ai trouvé ça, c'était une découverte. Voilà. J'aimerais bien transmettre ce goût-là à ma fille qui malheureusement continue à s'épiler. J'aimerais qu'elle découvre ce plaisir du vent dans les poils.